OK, alors bonjour tout le monde. Ça va bien? La semaine prochaine, on a une pause. Ça fait un peu étrange parce que, en fait, les cours bibliques se terminent à la fin mai. Mais la semaine prochaine, c'est la fin de semaine de la fête de la Reine. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont en pédagogique vendredi, lundi et mardi même pour plusieurs. Donc, dimanche prochain, il n'y a pas de cours biblique, d'accord? Il y a simplement le service à 10h15. Et puis, le cours se termine, lui, à la fin du mois de mai. Donc, il nous reste encore, je crois, deux autres leçons après. C'est bon? Donc, on est dans le cours « La mort dans la cité ». On est dans le deuxième ouvrage de Francis Schaeffer, « Dieu ni silencieux ni lointain ». Et puis, je m'appelle Yannick Etienne, on va aller dans un mot de prière. Bien, Père éternel, nous voulons te remercier pour cette journée spéciale de la fête des mères. Merci pour le soleil qui est là ce matin au rendez-vous, malgré les orages annoncés, Seigneur. Merci pour... toutes les mamans qui vont venir ici ce matin, toute l'assemblée qui va se réunir pour élever ton nom, et puis aussi pour dire à nos mères à quel point on les aime, combien elles sont précieuses. On te demande, Père, de venir nous bénir ce matin dans ce temps, dans cet ouvrage de Schaeffer qui nous aide, Seigneur, à comprendre mieux le monde où nous vivons et simplement pouvoir apporter tranquillement ta parole, ton évangile dans des conversations. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On termine la leçon, c'est comme si j'ai tiré mes leçons, là. Si vous avez besoin des feuilles de notes, on en a réimprimé quelques copies. Donc, ce matin, il faut absolument qu'on couvre cette leçon-là au complet, là. On parle de la morale, du dilemme de l'homme. Je vais juste aller au début. Voilà. Le premier sujet qu'on a abordé, c'est comment peut-on expliquer l'existence de l'être humain, l'existence de l'univers, la question métaphysique. Si vous cherchez métaphysique sur Wiki, vous allez voir que c'est un terme qui est très large. On traite juste un aspect de cette question-là, qui est vraiment la question d'où vient que nous existons, d'où vient que l'être humain existe, d'où vient que l'univers existe. Deuxième question en philosophie qui est importante, c'est le mystère ou le dilemme. Appelons-le un mystère. Le mystère, comment expliquer que dans cet univers-là qui est impersonnel, où les objets sont des objets, les animaux ne sont pas des personnes dans le sens qu'elles ont conscience d'être avec des choix moraux, tout ça, d'où vient que cette étrange bébête-là dans l'univers qui est l'être humain? Et il y a deux aspects qui posent problème ou qui demandent des explications. C'est le fait que l'être humain, donc, est une personne, premièrement. Il a conscience d'être, on a conscience de vouloir avoir une destinée, conscience d'être une personne à part entière. Puis on n'est pas juste, c'est difficile de voir qu'on est juste une série d'équations alors qu'on sort de cet univers-là puis on l'observe dans un certain sens. Ça, c'est un élément. Puis l'autre élément, c'est que nous sommes des êtres moraux. Francis Schaeffer va parler de la noblesse de l'homme ou de la cruauté de l'homme. C'est toujours la question morale. Si on vit dans une société seulement matérielle, comment expliquer que nous, on fait des choix qui sont au-delà de ça puis qui ne sont pas logiques nécessairement? On va choisir de sauver un enfant qui naît multi-handicapé. Si je respectais juste les lois de la nature, je n'essaierais pas de le sauver. Parce que sa santé, son code génétique, ses conditions de naissance ne semblent pas m'indiquer qu'il est destiné à vivre. Alors, pourquoi est-ce qu'on déploierait des milliers, des milliers et des milliers de dollars, des équipes pour prendre soin de ce petit être-là? Puis c'est un choix qui s'impose à l'homme. Schaeffer va parler d'impulsion morale. Intuitivement, on a l'impulsion qu'il faut prendre soin, il faut sauver. Alors, d'où ça vient, ça? Et c'est un petit peu ça la question qu'on va chercher à répondre pour expliquer cette bébête-là qui est l'être humain dans l'univers. C'est bon? Et vous allez voir, ça nous permet d'avoir des conversations avec des gens pour poser ces questions-là. Où est-ce que vous trouvez vos réponses à ça? Alors, l'humanité, l'homme, le dilemme de l'homme. D'où vient que je suis une personne qui a conscience d'être une personne puis que je ne suis pas que des équations mathématiques? Ça, c'est la première question. Comment expliquer l'humanité de l'être humain, sa personnalité? Le deuxième, je l'ai mentionné, c'est la question morale. Et j'aime ça, j'avais commencé à l'introduire la semaine dernière. J'aime comment Francis Schaeffer le prend. Il va parler de la noblesse ou de la cruauté de l'être humain. Il y a d'autres choses qu'on peut rentrer là-dedans, des choses comme l'appréciation de l'esthétique. L'être humain aime le beau. Puis il y a même pour nous un beau moral. Comprenez, la beauté n'est pas juste dans le domaine physique, il va y avoir une beauté aussi morale. On va dire qu'un geste qui est immoral est quelque chose de laid, par exemple. Puis là, on voit toute la... Je dis ça, puis vous pouvez penser, écoutez, à des films comme Silence des agneaux, qui n'était peut-être pas un film pour les chrétiens à regarder, mais probablement vous savez au moins de quoi je parle, il y a des bonnes chances, où on a cette espèce de tueur en série cannibale qui, pour lui, est comme à quelque part dans le summum de l'art, tu sais. Puis, donc, on a vu beaucoup dans l'art postmoderne, on a vu beaucoup une célébration de ce qui est noir, puis où on va chercher à trouver beau ce qui, dans une perspective chrétienne, est absolument affreux. D'accord? Vous le voyez dans la mode, vous le voyez dans les tenues vestimentaires, vous le voyez. Puis là, je ne fais pas un jugement, là, ça c'est bien, c'est mal, mais il y a une espèce de célébration du morbide qui est là dans la culture, d'accord? Qui voudrait dire, ben, puisqu'on peut choisir ce qui est bien puis ce qui est mal, je peux décider de trouver beau et bon ce que toi tu dirais être mal. D'accord? Puis là, une célébration du morbide, par exemple. D'accord? Schaeffer met tout ça dans la question de la noblesse ou de la cruauté de l'homme. Ce qu'on a vu avec l'autre sujet, c'est qu'il y a trois explications généralement admissibles pour expliquer l'existence. Soit qu'il n'y a aucune explication logique, on ne peut pas faire aucun sens de notre existence. Soit qu'il y a une explication logique, mais impersonnelle. Ce n'est pas un créateur, ce n'est pas un designer qui est à l'origine, c'est juste une suite de règles, de lois mathématiques, physiques, chimiques, tout ça. Et on n'a pas à chercher une personne à l'origine de ça. Ou soit qu'il y a une explication logique encore, mais il y a une personne. Donc, c'est une origine logique, rationnelle, qu'on peut comprendre dans une certaine mesure, mais aussi personnelle, non pas impersonnelle. Il y a une personne qui est à l'origine. C'est à travers ça aussi qu'on va chercher des réponses sur comment expliquer que l'être humain est là dans l'univers des personnes qui sont nobles ou très cruelles, mais c'est toute la question de la morale, d'accord? Bien, évidemment, la première explication à l'existence de l'univers, celle qui dit il n'y a rien de logique là-dedans, on ne peut pas s'étirer beaucoup là-dessus, d'accord? Donc, si pour une personne que vous rencontrez, elle dit « il n'y a aucun sens à faire avec rien », ils sont très rares. Mais ça se peut que vous rencontriez un hippie un peu flyé qui dit « il n'y a aucun sens à faire avec absolument quoi que ce soit. » Qu'est-ce que je vais faire dans ma conversation avec cette personne-là? Gentiment, avec respect, je vais chercher les contradictions dans son système, dans sa vision du monde, parce que c'est, il ne fonctionne pas comme ça de manière pratique. D'accord? Celui qui fonctionne comme ça, de manière concrète, va littéralement être un fou ou va vivre de manière complètement isolée du monde ou dès qu'il va partir dans cette réflexion-là, la première pensée va peut-être être de suicider. Je ne sais pas. D'accord? Mais donc, il n'y a personne vraiment qui fonctionne à la lumière de ça. Et je vais chercher. C'est quoi les contradictions? Comment est-ce que je peux chercher les contradictions avec quelqu'un qui pense comme ça? Juste pour voir si ça commence à rentrer, toute cette réflexion-là dans vos têtes. Oui, David. Quelqu'un d'autre que David, après. Il pose un jugement. Donc, c'est un argument qui se réfute de lui-même. Alors, c'est l'évidence. Ça se fait bien si je parle avec quelqu'un qui est vraiment très, très posé puis très rationnel. Si je suis en train de discuter avec quelqu'un qui est assez investi dans ce débat-là, puis c'est une des premières affirmations qu'il a faites, c'est que les religions, c'est stupide puis ça a juste amené plus de problèmes que de bien, bien, je ne suis pas vraiment juste au niveau de la raison. Donc, je vais chercher dans ce cas-là à aller chercher quelque chose dans son expérience quotidienne qui est d'une manière flagrante en opposition avec ce qu'il vient de dire. Quelque chose qui vient le chercher en dedans. Je vais donner la parole à Linda, puis après ça, Stéphane. Parfait. Par exemple, est-ce que toi, est-ce que tu reconnais pas chez tous les êtres humains en général un besoin d'aimer puis un besoin d'être aimé? Ça, c'est une espèce d'universel, tu sais. Fait que, oups, il y a quelque chose à quelque part, là. Comment est-ce que tu expliques ça? Ça se peut qu'à la fin de tout ça, ils disent « Oui, je comprends, mais il n'y a aucune explication logique à ça quand même. » Oui, Stéphane, mais ça serait un bon exemple. Oui. Oui, c'est ça. Donc, OK, la personne est mariée, elle a une famille, elle suit des règles, elle bâtit sur un système qui semble cohérent et logique. Donc, c'est ça, la personne n'est pas conséquente avec ça. Fait que quand on... Oui, madame. Oui. Oui. Absolument. Ce que madame dit, c'est est-ce qu'on ne trouve pas dans l'Écriture des informations qui nous montrent justement que le cœur, d'une part, veut faire le bien, puis d'autre part, le cœur est mauvais, le cœur est corrompu. Oui. En réalité, lorsque j'ai l'opportunité, avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, d'ouvrir les Écritures, j'ai beaucoup, beaucoup d'explications. J'ai beaucoup de pistes dans les Écritures qui me permettent d'entrer, d'aider un non-chrétien à comprendre l'univers de manière très, très logique et intelligente. Fait que je peux aller là dans les Écritures puis voir dans le comportement humain, en général dans la société, on voit des êtres humains qui essaient de faire le bien puis on voit en même temps cette cruauté-là qui fait qu'on fait souvent le mal. Puis là, je peux aller dans les Écritures. Ce que Schaeffer fait, c'est que Schaeffer dit « Oui, mais d'où tu pars avec la personne qui dit les Écritures? » Pour moi, ça fait déjà aucun sens. Ça n'a aucune autorité. Alors, ce que Schaeffer fait, lui, c'est qu'il va commencer, il va dialoguer avec la personne pour faire sortir quelques questions. Comme par exemple, si la personne admet, elle dit, OK, je reconnais l'être humain, l'idée de la noblesse de l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain peut chercher à faire le bien, mais en même temps, il est assez incapable de vraiment toujours faire le bien. Moi, ça me parle du cœur humain. Là, Schaeffer dirait, mais si tu permets, j'ai un verset pour toi. J'aimerais ça te citer les Écritures. Mais Schaeffer le ferait un tout petit peu plus loin dans la conversation. Il ne commencerait pas là nécessairement. Mais oui, les Écritures me donnent beaucoup de réponses très logiques qui m'aident à comprendre l'univers. Est-ce que je réponds un peu à votre question? C'est bon, merci. OK, maintenant, comme on l'a mentionné, c'est pas cette vision-là de l'univers, celle qui dit que l'univers n'est pas logique, qui est inexplicable, qui est incohérent, tout ça. C'est pas celle-là qui est la plus difficile à discuter. C'est pas celle qu'on va rencontrer le plus souvent. Celle qu'on va rencontrer plus souvent, c'est la vision de l'univers de Yannick Villedieu. Vous connaissez Yannick Villedieu à Radio-Canada, Les Années Lumière, un journaliste de scientifique, si on peut dire. Je lisais justement hier soir une plaquette qui a été publiée par des Québécois qui sont soit athées, soit agnostiques. Heureux, vivre heureux sans Dieu. Puis il y avait son témoignage à lui, son histoire à lui. Puis il disait clairement, là, quand je vous parle d'une vision du monde matérialiste, c'est-à-dire que tout s'explique uniquement par la matière, par des lois physiques, écoutez, là, je pourrais vous lire juste un paragraphe avec lui, vous verriez, c'est intégralement ça qu'il croit, c'est ça qu'il dit. Il dit, je suis un matérialiste dans le plus pur sens du terme, c'est-à-dire tout l'univers n'est que loi physique, loi mathématique, tout n'est que matière, il y a juste ça qui est vraiment, qu'on peut vraiment saisir. Et donc, toutes les émotions que je vis, toutes les décisions que je prends, même le sentiment que j'ai peut-être d'être éternel, tout ça s'explique par la chimie, par la physique, tout ça. Et il n'y a rien au-delà de ça. Il n'y a absolument rien à l'extérieur de ça. Puis il assume cette vision du monde-là. Donc, avec conviction, il dit, quand je meurs, les molécules vont suivre leur chemin, ça va finir là. Et si je survis, c'est uniquement dans la mémoire de ceux qui m'ont connu. Mais moi-même, comme être, ça finit là, je n'existe pas. D'accord? Donc, ça, c'est l'autre vision du monde. Puis la troisième est celle qui dit, oui, il y a plein de lois, tout ça, mais il y a un créateur, il y a un designer derrière. Alors, comment est-ce qu'on répond à la question de l'humanité, la personne humaine, sa personnalité, et puis la question morale, si ma vision de l'univers, c'est une vision matérialiste? Lui, Yannick Villedieu, il dit, premièrement, je peux expliquer que la personne naît, que à quelque part, par un hasard de lois mathématiques, une suite logique, à un certain moment donné, l'être humain évoluait d'une manière à devenir une personne. Et puis, il termine même son témoignage, j'ai trouvé ça intéressant. J'aimerais entendre comment il le fait, par exemple. Mais il dit, je crois aussi qu'on peut très, très bien construire une morale sans avoir recours à croire en Dieu. Avec une vision matérialiste, on peut construire une morale. Donc, on va aller voir les difficultés un petit peu de cette vision-là, d'accord? Je suis au bas de la page 1. Un commencement impersonnel implique la non-existence de la morale. Yannick Villedieu serait d'accord, je crois, pour dire avec moi, dans un sens absolu, si je crois, si ma vision du monde, c'est que nous ne sommes que matière, que suite logique de règles mathématiques, physiques, chimiques, tout ça, lui, ce qu'il dirait, c'est, bien, il nous revient à nous à partir de ce moment-là de se construire une morale. C'est un droit qu'on se donne de bâtir une morale parce que de manière absolue, il n'y en a pas. Le bien et le mal n'existent pas vraiment, c'est plutôt celui qu'on va se donner ensemble. De manière absolue, dire qu'il y a un enfant qui rentre ici sans défense, tout ça, puis moi je décide que je m'en vais avec ma hache faire quelque chose de pas beau, c'est plus une convention sociale qu'on se donne qui dit que c'est mal de faire ça. Parce qu'en réalité, avant l'homme, il n'y avait pas de morale, il n'y avait que loi physique, puis après l'homme, il n'y aura plus de morale, possiblement, il n'y aura que loi physique. Si l'humanité disparaît puis que l'univers continue, les lois vont suivre leur cours. Peut-être qu'il y aura une autre espèce qui apparaîtra à un moment donné, qui se donnera des lois, des conventions pour fonctionner, mais de manière ultime et absolue, il n'y en a pas de bien et de mal. Est-ce que vous me suivez? Ça va, ça? D'accord? Fait que quand je lis, admettons, Yannick Villedieu qui critique les religions parce qu'il trouve que les religions n'ont rien apporté de bon. Mais là, la question que je me pose, c'est comment est-ce que tu peux juger qu'ils n'ont rien apporté de bon puisqu'il n'y a pas de bien et de mal? En réalité, elles ont apporté ce qu'elles ont apporté. C'est ni bien, c'est ni mal. Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Pour lui, c'est un mythe, les religions. Dieu, c'est un mythe. Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'attaquer à ce mythe-là si ce mythe-là a fait qu'il n'y a plus d'esclavage? Soit dit en passant, l'esclavage n'est ni bien ni mal non plus dans ce cas-là. Ce sont toutes des conventions sociales. Fait que ça, c'est une difficulté parce que tu n'as pas un bien et un mal absolu. Tu as ce que Schaeffer va appeler un bien et un mal de situation, un bien et un mal statistique. C'est une société qui s'assoit ensemble et qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal selon la tendance du jour. Qu'est-ce qui est au menu actuellement dans notre société? C'est ça le bien et le mal. Et ça, ça pose des questions importantes. Parce que là, tu peux te demander, mais qu'est-ce qui nous justifie, admettons, d'aller arrêter Boko Haram, d'enlever des petites filles? Je veux dire, c'est pas ni bien ni mal dans cette société-là où ces machos-là sont en train de dominer puis de massacrer, disons, le sexe féminin puis les hommes plus faibles. Je veux dire, c'est vraiment juste une question de convention sociale. Entendons-nous, une fois que l'espèce humaine sera disparu parce que les choses auront suivi leur cours, puis ça finit là, ça ne changera rien, ça. Fait que pourquoi même s'époumoner à faire ça? La grande difficulté avec une vision uniquement matérialiste, c'est que toute la morale est circonstancielle. Elle est statistique, elle est sociologique. Donc, à la limite, si les États-Unis ont réussi à se construire économiquement le sud des États-Unis sur la base de l'esclavage, grand bien leur soit. Ça leur a permis de fonctionner, puis de se construire, puis de devenir la nation la plus riche du monde. C'est quoi le problème? Ils ont évolué, puis un jour, ils ont dit, on en a eu assez, on a tiré ce qu'on pouvait, ils vont travailler plus s'ils ne sont pas esclaves, on va abolir l'esclavage. Bah, grand bien leur fasse. Il n'y a pas de problème avec ça. Les femmes veulent travailler, si elles tombent enceintes, ça peut nuire à leur liberté, elles veulent se faire avorter, grand bien leur fasse, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas vraiment de problème, c'est juste une question de convention. Puis on va évoluer comme ça. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui trouve que je suis injuste avec une vision matérialiste du monde qui voudrait se faire l'avocat, non pas du diable, s'il est un mythe, mais de Yannick Villedieu? Peut-être que je suis simpliste dans mon argument, là, puis je suis injuste. Sûrement que s'il était là, il me dirait « oui, oui, attends un peu, pompon, là ». Il dirait plus poliment, il y a un beau français, Yannick Villedieu. Est-ce que vous voyez quelque chose qui ne va pas dans ça pour de vrai? David? Oui, il dirait que c'est un concept. C'est un concept. Non, c'est ça. Lui, ce qu'il dirait tout simplement, c'est qu'il dirait l'évolution nous a conduit à être capable de conceptualiser. C'est ni bien, c'est ni mal. C'est une réalité. On est une toute petite bulle de savon qui va bientôt éclater dans l'histoire de l'univers, c'est tout. Non, c'est ça. Je pense qu'il dirait qu'on est le fruit de l'improbable, dans le sens que, je veux dire, il est assez documenté scientifiquement. Là. Vous n'avez pas l'air de connaître Yannick Villedieu, hein? J'ai l'impression que je suis le seul qui écoute Radio-Canada. Il y en a quelqu'un qui connaît Yannick Villedieu ici? C'est intéressant pour moi juste de savoir ça. Merci. Juste pour connaître l'Église. Je passe à vous, madame. Allez-y. Oui, oui. 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 OK, je vais répondre à votre question, d'accord? Oui, à partir d'une vision matérialiste du monde, je peux construire une éthique, d'accord? Tout ce que Francis Schaeffer dit, qui est l'auteur chrétien, tout ce que lui dit, c'est que cette éthique-là va être circonstancielle. elle va dépendre des époques et de notre vision du monde de l'époque parce qu'elle n'est pas fondée sur un bien ou un mal absolu. Donc, parce qu'il faut s'entendre, là, l'humanisme prétend faire beaucoup de bien. Mais si mon humanisme repose sur une vision matérielle de l'homme, je n'ai pas de fondement absolu pour définir le bien qu'on veut faire ensemble. Donc, une société peut décider de faire ceci en déterminant que c'est bien, puis d'autres peuvent décider que non, ce n'est pas ça qu'on va faire. Le fondement le plus concret puis le plus arrêté dans la vision humaniste, c'est que l'humain est quand même ce qu'il y a de plus beau dans cet accident de loi physique. Et donc, l'homme est au centre de son univers, puis on va construire notre morale sur notre aspiration à devenir quelque chose comme humanité. Donc, l'homme est au service de l'homme avec un grand H, de cette humanité-là, sans plus de sens. Une fois que l'humanité sera disparue, bien, ça sera une bulle, comme j'ai dit, qui a éclaté dans l'univers, puis ça finit là. Mais le fondement de l'humanisme, c'est « Wow, quand même, l'être humain est assez extraordinaire, fait que il vaut la peine qu'on essaie de l'amener plus loin. Il vaut la peine qu'on essaie de l'amener plus loin, même si c'est juste un accident dans un sens de la nature. » Il faut vraiment que j'avance. Là, si vous avez une question qu'il y a à clarifier, on y va. Oui, oui. Bien, c'est ça le grand dilemme. C'est ça le grand dilemme avec quelqu'un qui est humaniste puis qui est matérialiste. C'est qu'en réalité, il y a beaucoup des actions qu'il pose qui ressemblent plus au comportement qu'un déiste, quelqu'un qui croit dans l'existence de Dieu, va avoir. Je reviens encore au petit... si vous n'avez pas vu le petit documentaire « Heureux naufrage », vous allez me trouver tannant, il faut que vous le regardiez. Lorsque le comte Sponville, qui est un philosophe athée, dit, par exemple, il dit, « Puisque j'ai des enfants, j'ai voulu élever mes enfants et je n'avais d'autre choix que d'aller puiser la valeur de la compassion et de l'amour telle que définie par le christianisme, parce que c'est vraiment la plus belle définition de l'amour, la plus grande définition de l'amour. » Donc, ce que j'oserais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'humanistes qui se comportent, en quelque sorte, dans une certaine mesure, comme des chrétiens, comme des déistes. D'accord? Parce qu'ils ont cette impulsion morale-là dont parle Francis Schaeffer. Ils ont l'impulsion d'aller sauver un peuple où on est en train de massacrer, il y a un génocide, d'aller faire une intervention. Ça ne s'explique pas juste sur une base matérialiste, cette affaire-là. Il y aurait des choix plus... Même si j'étais un humaniste sans croire là, qu'on a une âme puis qu'on va vivre tout ça, même si j'étais un humaniste comme ça, il y aurait des choix difficiles à faire, mais logiques à faire pour laisser, à ce moment-ci, une partie de la population mondiale disparaître d'elle-même. Puis s'acheter du temps, littéralement, pour sauver l'homme. Je pense que je vais partir de cette partie-là. Je pense que je pourrais être bon. Oui, J.S.? Absolument. Absolument. C'est une morale qui va être basée, admettons, sur une vision matérialiste. Puis il dit, on observe la nature. Dans la nature, toute espèce vivante a un instinct de survie. C'est ça qui fait qu'elle a survécu. Donc, on va construire notre morale sur cet instinct de survie-là. Nous, on a dépassé les animaux. Donc, on est capable des fois de faire des choix qui, instinctivement, ne semblent pas être le bon pour survivre, mais qui... Plus loin, étant donné que j'ai la capacité d'avoir une pensée abstraite, ce que l'animal n'a pas, bien, par abstraction, je vais me projeter dans le temps puis je vais dire, ça, c'est ce que mon instinct me dirait de faire, mais ce n'est pas le choix que je veux faire parce que je veux sauver l'espèce humaine, donc je vais faire un autre choix que celui-là. Et donc, on va construire une morale sur ça. C'est sur ces choses-là. L'affaire qu'il y a, c'est que tu trouves toujours des choix moraux que la société fait qui ne s'expliquent pas par ça. Qui s'explique mieux si tu considères l'être humain comme un être sacré, OK? qui a été créé à l'image de Dieu, qui porte en lui l'image de Dieu. Il y a de ces choix-là qu'on fait. Je m'excuse, hein, je dis vraiment un paquet d'abominations là, lorsque je donne mes exemples. Là. Vous comprenez que, je veux dire, j'étais éducateur spécialisé, j'ai travaillé. Vous n'avez pas vu des personnes aussi handicapées que celles avec lesquelles j'ai travaillé, à moins que vous ayez travaillé dans le même domaine que moi. Là. Vous n'avez pas vu ça, d'accord? Puis je les aimais là, à pleurer. Je pense encore à eux, je connais leur nom. Fait que je dis des abominations, mais pour moi, c'est pas simple comme ça. Là. C'est juste pour la réflexion. Mais par exemple, Hitler faisait peut-être pas tellement fausse route en disant ces bébites-là, multi-handicapés et tout le kit, devraient au moins nous servir la science. Ça devrait devenir des outils de recherche scientifique. Ah, mais c'est une abomination pour 99% des êtres humains, cette pensée-là. Ça ne s'explique pas juste avec l'instinct de survie. Parce que Hitler faisait peut-être un très bon choix suivant l'instinct de survie, sauver la société. De toute façon, ils ne survivront pas, là, on s'entend-tu? Fait que leur espérance de vie, c'est quoi, 10, 15, 20 ans, tout au plus, en mettant des millions là-dessus? Au moins, s'ils peuvent servir à ça, ils auront servi à quelque chose de noble, puis on mettra mettra leur nom à quelque part. Bravo, Chummy, t'as servi la science. Vous comprenez? Donc oui, c'est sur ça qu'ils bâtissent souvent, sur cette vision-là, l'instinct de survie, OK, donc c'est comme ça qu'on explique, on va se bâtir une morale à partir de ça. Mais il reste que lorsque tu t'en vas dans le concret, ils font plein de choix qui ne sont pas conséquents avec ça, qui ne s'expliquent pas bien avec une vision uniquement matérialiste. J'ai lu le témoignage attentivement d'Yannick Villedieu, puis je dis, boy man, j'espère que je vais prendre un café avec toi à un moment donné, parce qu'il reste beaucoup de trous dans ton témoignage. C'est trop facile de dire, de mépriser les religions en disant « De toute façon, c'est pas logique cette affaire-là, tout ça. Écoute, moi je pense que tu leur dois un méchant chapeau parce qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses pour organiser ton univers matérialiste puis aider l'être humain à sauver, tu sais. Mais de toute façon, il n'y a rien de logique là-dedans comme ton argument à toi, c'est juste circonstanciel. C'était la bonne chose. Si ça revient, tu n'as pas à le critiquer. Tu ne peux pas juger que ma défense de la religion est mal, ça n'existe pas vraiment le mal puis le bien. » Je veux dire, il y a des. Fait que les chrétiens, des fois, on tombe là-dedans. Le McLean's a publié quelque chose, je ne l'ai pas si longtemps, la revue McLean's, où une dame a fait des recherches assez intensives sur l'espérance de vie et la qualité de vie des filles dont la mère est chrétienne. Le taux de dépression, de maladie mentale, puis tout ça. Bon. Bon, ben, les chrétiens, des fois, on tombe là-dedans. Dans l'argumentaire, on veut dire, mais tu ne vois pas que la religion apporte du bien? Comprenez? On est dans l'argumentaire de dire, ben là, peut-être d'abord, tu peux nous accepter si on fait du bien. C'est un petit peu le même raisonnement qu'eux, c'est circonstanciel. C'est pas pour ça que je parle de Dieu. C'est parce qu'il existe. C'est parce que c'est lui qui est à l'origine de l'univers. J'avance un petit peu, d'accord? Juste pour être sûr que cette fois-ci, je couvre toute ma matière. Ça, c'est couvert. Puis, une chose à remarquer qui est importante, c'est que, je l'ai déjà mentionné, mais je le répète, là, puis vous pourrez aller lire là-dessus. Il y a beaucoup de religions dans le monde qui, dans le fond, reviennent à une vision matérialiste, dans le sens qu'elles ne croient pas dans un bien ou un mal absolu. C'est une vision plus mystique de l'univers. Le bouddhisme, c'est une vision plus mystique de l'univers, d'accord? Mais qui cadre assez bien avec une vision matérialiste parce que, dans le fond, le bien et le mal n'existent pas en définitive. D'accord? On est plus énergie que bien ou mal. Puis il y a cette espèce de détachement à l'égard de ça. Le bien se trouve dans le détachement davantage que dans l'exercice lui-même du bien ou du mal. Et donc, ça se ressemble quand même beaucoup. C'est ce qui fait, je crois, qu'il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers... On parlait de se construire ta petite religion, ta pensée. Ils se tournent vers ça. Par réflexe, parce qu'il n'y a pas de bien et de mal. En même temps, ça me donne une espèce de sentiment de transcendance où je vais après ma mort, continuer à vivre, au moins dans cette énergie-là qui est partout dans l'univers. Fait que ça pourrait être du Yannick Villedieu avec des molécules divines. Je vais devenir molécule, mais au moins je serai molécule qui participera à l'avancement de l'univers. Puis ça donne un peu de poésie à ma vision matérialiste de l'univers. Ça va? Je ne dis pas ça avec mépris, je vous l'assure. J'essaie juste de comprendre ce que les gens croient. L'évolution, si on peut appeler ça l'évolution au niveau de la sexualité, l'évolution moderne de la sexualité est beaucoup liée à cette vision-là très, très matérialiste où il n'y a pas ni bien ni mal. D'accord? c'est plutôt des conventions sociales. Tu changes les conventions, tu changes les règles. Tout est bien, tout est mal. C'est juste une question plutôt de plaisir. J'avance un petit peu vite, là, vous pourrez trouver ça là. Si, qui connaît le marquis de Sade? Ça vous dit quelque chose? Marquis de Sade. Bon, si vous cherchez le marquis de Sade, ne cherchez pas des images, cherchez plutôt du texte. C'est lui qui est à l'origine du sadomasochisme comme philosophie, d'accord? Mais ce qu'on ne sait pas lorsqu'on ne connaît que ça de lui, c'est qu'en réalité, c'est un philosophe. Il a passé, je crois, la majeure partie de sa vie en prison. Mais cet homme-là, dans sa vision de la sexualité, était simplement 100% conséquent avec ce qu'il croyait sur l'univers. Il croyait dans une morale chimique. On est une suite de règles logiques. Et donc, le marquis de Sade va dire « ce qui est, est juste ». Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas de vrai bien et de mal. C'est juste une suite de règles chimiques. Moi, si je m'en vais allumer un bâton de dynamite puis il explose, ça suit des lois de chimie, de physique. Si mon cerveau est de chimie, si mon cerveau à moi fait que je suis un être violent qui décide de zigouiller tout le monde ici dans la pièce, je fais juste suivre des règles chimiques. Il n'y a pas vraiment de bien ou de mal. Ce qui est juste. Ça, c'était sa vision. À son époque, il était scandaleux. Puis encore aujourd'hui, si je fais juste citer ça avec quelqu'un qui me dit « Regarde, le bien, le mal, c'est qui, c'est quoi? » On est juste dans un univers des accidents, tout ça. Donc, ce qui est juste. Ça ne te dérange pas si je suis plus fort que toi puis je pars avec ton char. C'est juste. Ce qui est juste. Je suis plus fort que toi, c'est juste. Il y a très peu de gens qui, comme ça, Marquis de Sade l'a fait, par exemple. Il a cherché à vivre à la lumière de ça. Si ça vous tente de lire sur la philo, vous pourrez lire sur son histoire, sans aller lire ses livrets, d'accord? Parce qu'il a écrit des romans pas très beaux. C'est difficile, en conclusion là, pour cette partie-là, c'est difficile d'expliquer l'univers sur la base d'un univers impersonnel. Parce qu'il n'y a pas de bien et de mal absolu. C'est difficile d'expliquer qu'il y a des êtres personnels qui ont conscience d'être. Ça s'explique beaucoup plus logiquement si je crois qu'à l'origine de l'univers, il y a une personne. Il y a une personne qui a conçu cet univers-là, qui a créé cet ordre-là, cet ordre de lois physiques, chimiques, mathématiques extraordinaires, mais qui, en plus d'avoir créé tout ça, a créé des êtres personnels comme lui est personnel, et puis moral, donc noble, comme lui l'est. Maintenant, il y a un problème qui survient si je crois à ça. Puis ça, vous l'entendez souvent quand vous jasez avec les gens. OK, si Dieu existe, là, je vais dire quelque chose de mal, là, c'est un salaud. Parce qu'il a créé l'être humain extrêmement cruel et méchant. Je préfère croire qu'il n'existe pas parce que s'il existe, cela me pose de sérieux problèmes. Baudelaire le dit ainsi, si Dieu existe, c'est le diable. Parce qu'il a créé un être humain qui est vraiment cruel. Donc, j'ai un dilemme. Si je crois que l'univers vient d'une personne qui l'a créé, il faut que je réponde à la question, oui, mais l'être humain qui est capable du meilleur est aussi capable du pire. Si Dieu l'a créé comme ça, Dieu est donc cruel. C'est un petit peu le même débat qu'on a lorsque les gens viennent nous dire, si Dieu existe, il est où? Parce que Boko Haram, ce serait le temps qu'il s'occupe d'eux. Vous comprenez? C'est un petit peu le même dilemme qu'on a à cet endroit-là. Si ce Dieu-là existe, il a créé un univers ou est-ce qu'il a créé un être humain qui est cruel, puis ça, c'est inacceptable. Camus lui disait qu'on ne pouvait pas essayer de lutter contre le mal social parce qu'on serait en train de lutter contre Dieu qui a créé l'univers comme ça, qui a créé l'homme comme ça. Pour cette raison-là, il n'arrivait pas à admettre l'idée que Dieu existe. Est-ce que vous me suivez sur ça? Ça va? Alors, les théologiens libéraux, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils disent, OK, on a un problème, c'est vrai, mais comme ils croient pas au surnaturel, ils ont, démythologisé toutes les Écritures, tout ce qui est... Tantôt, on va être dans Daniel, les gars sont chiés dans le feu, whoop, il y a un ange qui est là, les gars, ils sortent, même pas d'odeur de brûlé, rien. C'est tout des mythes, tout ça, ça n'existe pas. Comme ils font tout ça, ils n'arrivent pas à aller saisir la personne de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, tu as raison, ce qu'on regarde dans le monde, ça ne marche pas, on voit l'homme qui est cruel, mais il faut croire que Dieu est bon. Et donc, la théologie libérale va plutôt s'appuyer sur l'idée de dire, écoute, si Dieu existe, il faut absolument qu'il soit bon. Puis ça devient plus un vœu. On a un prêtre là, qui est décédé il y a un an, là, qui était très connu au Québec, qui est décédé d'un cancer. Là. L'abbé Gravel, merci. Mais ce monsieur-là avait terriblement peur de la mort. Parce qu'il ne croyait pas dans la révélation, dans les Écritures. Il ne pouvait pas aller s'appuyer, prendre ancre sur les choses que la Bible affirme. Donc, tout ce qu'il pouvait espérer, c'est de dire, j'espère que Dieu est là. Puis s'il est là, j'espère vraiment qu'il est bon. C'est la seule manière que je peux le concevoir. Je vous quitte. Puis c'est un prêtre, d'accord, qui était là pour conduire les gens dans la vérité. Mais comme il a suivi ce courant-là de théologie libérale, où il y avait des malaises avec les miracles dans les Écritures, il y avait des malaises avec les manifestations surnaturelles dans les Écritures. Je peux être mal à l'aise parce que j'aimerais ça que le Seigneur m'en fasse un à chaque fois que j'ouvre la Bible devant un non-chrétien, ce serait cool, tu sais. Mais non, un malaise qui dit, OK, j'accepte de dire que c'est probablement juste une histoire. C'est un conte pour enfants, ils ont mis un petit peu de belles affaires là-dedans, puis pouf, ça fait plus facile à communiquer des principes. Mais après ça, il aurait juste à espérer que Dieu est vraiment bon. D'accord? C'est quoi l'explication que nous, on va donner? C'est qu'on va dire, OK, l'univers a été créé par un être personnel, un Dieu, qui lui est bon. C'est vrai que l'être humain est cruel. Et si l'être humain n'avait pas toujours été cruel? Et si dans son histoire, il y avait eu une rupture? Peut-être que là, je pourrais expliquer la cruauté de l'être humain. Si l'être humain s'était détaché du design de départ, donc l'être humain ne serait pas en paix avec l'univers, si je peux dire, parce qu'il irait à l'encontre de ce pourquoi il a été créé. Là, j'ai une explication plus plausible. Là, je peux me réconcilier avec un être qui est personnel, qui est à l'origine de l'univers, comprendre qu'il a créé des êtres humains qui sont des personnes, qui ont conscience d'être une personne. Puis je peux aussi expliquer le fait que l'être humain est cruel, sans que Dieu le soit nécessairement. C'est parce qu'il y a eu une rupture. L'être humain est dénaturé. Je peux arriver à toutes ces conversations-là, là, vite, 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 avec quelqu'un. Là. Écoutez, j'ai eu un bout de conversation comme ça cette semaine avec un jeune homme. Il se présente à moi, il dit « Moi, je suis un anarchiste. » C'était un vrai de vrai, c'était le fun. C'est la première fois que je jasais avec un vrai de vrai anarchiste. Et fier supporter des manifestations, il dit « Je suis dans tout ça. Nous, on est pour le renversement armé de l'État. Le pouvoir, c'est totalement tout croche, tout ça. » Puis la difficulté qu'on avait dans notre conversation, c'est que je lui disais, parce que là, il n'arrêtait pas de me dire « Tu trouves pas? Tu vois pas? Il y a plein d'abus, non, non, non. » Je dis « Oui, mais je dis pour moi, le problème, c'est pas le pouvoir, c'est le cœur de l'homme. Donc, pour moi, c'est juste qu'avec beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup de corruption, mais le cœur de l'homme est fondamentalement corrompu. » Là, il y avait de la difficulté à aller là, à cet endroit-là, d'accord? Mais j'essaie donc d'expliquer le chaos social qu'il y a avec la corruption puis tout ça dans une société où on essaie de se construire. Lui, sa vision du monde, c'est que l'être humain est fondamentalement bon, il naît bon, Jean-Jacques Rousseau, puis ce système-là l'a corrompu, donc il faut renverser ce système-là, puis on va plutôt être dans le partage ensemble sans avoir un système de pouvoir. Aucun pouvoir, aucun Dieu. C'est ça qu'il nous a dit. On avait des traités, des trucs, là, puis il dit, « Moi, je n'ai pas de problème avec ça, madame, ni Dieu, ni autorité. » Je vous écoute. Je parlais à mon épouse. Fait que, dans sa vision du monde, c'est comme ça qu'il le voit. Il y a une difficulté, parce qu'il ne peut pas vraiment expliquer cette cruauté-là qu'il y a chez l'être humain sans aucun pouvoir. D'accord? C'est ça. Donc, la vision du monde qui dit qu'il y a un Dieu personnel qui est à l'origine de l'univers nous permet d'expliquer qu'il y a simplement eu une rupture dans l'histoire de l'homme. Schaeffer va dire à la page 4, là, puis on va terminer sur ça. Deuxième paragraphe de la page 4, c'est ici que la pensée chrétienne et la philosophie non chrétienne s'opposent. Le philosophe prétend que l'homme actuel est normal, tandis que le penseur chrétien affirme son caractère anormal. D'accord? Lorsque moi, je vais discuter avec quelqu'un, je vais dire, on n'est pas supposé d'être comme ça. On devrait être autrement. Celui qui a une vision matérialiste de l'homme puis qui ne fait pas reposer l'explication de l'être humain sur un Dieu créateur, il va dire, non, non, c'est là qu'on est rendu dans notre évolution. On est normal. Là, il y a de la difficulté à expliquer ce désir-là de noblesse. D'accord? Et il y a quelque chose qui est irréconciliable ici, là, entre la philosophie chrétienne et la philosophie matérialiste. Je suis obligé à un certain moment donné de chercher des réponses. Quel est l'avantage de voir l'univers? C'est vraiment sur ça que je vais terminer. Les quatre points là, qu'on a à la page 4. Quels sont les avantages ou les explications que me donne une vision chrétienne ou judéo-chrétienne de l'univers? Je peux à présent expliquer que l'homme soit cruel sans que Dieu soit mauvais. L'homme est en rupture avec ce pourquoi il a été créé. Il est dénaturé actuellement. Je peux trouver de l'espoir pour le problème moral de l'homme. En effet, si un Dieu personnel et infini est son créateur, et si cet homme s'est détourné de sa nature essentielle en devenant cruel, alors ce créateur personnel pourrait intervenir en sa faveur. Il peut venir racheter cet homme-là. D'où l'histoire de Christ, d'où l'intervention de Jésus-Christ. Troisièmement, on a à présent une véritable raison de lutter contre le mal parce qu'il y a un vrai mal puis un vrai bien. Il y a un Dieu infini et personnel qui a déterminé, qui sait ce qui est bien, ce qui est mal. J'ai une vraie raison pour lutter. Ce n'est pas juste des conventions sociales. Ce qui fait que ça ne marche pas vraiment une vision des chrétiens qui sont totalement désengagés de la société. Ça ne marche pas, ça. C'est pour ça que Jésus dit, ben non, tu es un bon samaritain en permanence. Tu vois l'injustice, t'interviens. Ça revient constamment dans les prophètes de l'Ancien Testament. Ça revient constamment dans l'éthique de Jésus, d'accord? Je ne peux pas être indifférent. Je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal. Et quatrièmement, la vraie morale et les absolus moraux peuvent exister puisque Dieu est absolument bon, le mal étant totalement exclu de sa personne. Les caractères de Dieu est le critère absolu de la morale pour l'univers entier. Je termine avec une citation de Francis Schaeffer. Le fondement de la morale est là. S'il n'était pas là, il n'existerait pas de morale. Mais seulement certains systèmes conventionnels produits et imposés par une société fondée sur des valeurs toutes relatives et changeantes. Allez-vous être capable de vous servir un peu de ça dans des conversations avec les gens? Moi, je vous invite à réviser spécialement la dernière page, d'accord? Et puis, juste saisir les opportunités. Je vous ai mis au défi l'autre fois de le faire. Moi, je vous encourage. Juste avoir une conversation avec des gens puis dire, il y a trois manières de voir l'univers. Aucune explication logique. L'univers est uniquement matière sans aucun designer à l'origine. Ou bien, il y a quelqu'un qui a organisé cette affaire-là. Puis demandez à des collègues, juste pour le fun. Je fais mon petit sondage maison. Où est-ce que tu te situes, Karine? C'est compliqué pour les gens. Oui. Ouais. Donc, ce que Karine dit, c'est qu'un argument simple, c'est de regarder la sexualité animale puis la sexualité humaine. Mais c'est compliqué parce que les gens sont vraiment mêlés. D'une part, ils vont se servir de la sexualité animale. À partir du moment où c'est juste le fruit de l'évolution, ils vont se tourner vers l'animal pour dire, mais voilà, dans le fond, on trouve une grande liberté dans le monde animal, on peut aller jusque-là. Après ça, il y a des structures dans le monde animal. Il y a des choses que tu fais et que tu ne fais pas. Ils veulent aller au-delà de ça après ça. Vous comprenez-vous? Donc, il n'y a pas de fondement. Ces choses-là, en réalité, sont manifestes. Là, n'importe quand, je jasais avec quelqu'un cette semaine, puis il me dit, j'étais au bureau, j'ai ma collègue qui est à côté de moi, il dit, je ne voulais pas écouter la conversation, mais je l'entendais. Puis ma collègue était en train de dire à sa fille qui ne voulait pas rentrer au travail, comment mentir pour pas rentrer au travail. Puis ce gars-là, après ça, a demandé à sa collègue, il a dit, tu ne trouves pas qu'il y a un problème quand même parce que tu ne veux pas que ta fille te mente, par exemple. Mais tu viens d'y enseigner comment mentir. Il n'y a pas de base, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de fondement. C'est une éthique de circonstance. C'est mal pour mon enfant de me mentir, mais je pourrais lui enseigner, par exemple, à travailler en dessous de la table pour faire un petit peu plus d'argent. Là, c'est bien. C'est très circonstanciel. Là, on est dans la micro-circonstance. Vous comprenez? C'est au plus fort la poche, dans le fond, là. Il n'y a plus d'éthique. Il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Mais je dois, après ça, juste faire un pas en arrière puis dire, « Hey, c'est-tu effrayant, pareil, ces hommes-là qui enlèvent un paquet de filles, Boko Haram, puis tout le kit? Moi, je te zigouillerais ça. Ah ouais, moi aussi, c'est terrible. Pourquoi toi? Je comprends moi comme chrétien, mais toi, je ne comprends pas, là. Je ne catche pas, là. Il faut aller voir avec eux ces choses-là. Puis dire, est-ce que tu réalises que la société qui va se construire dans deux générations, ça va être pire encore, là? On est juste en train de détruire tous les fondements. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des athées, il y a des athées qui sont inquiets pour l'avenir. Parce qu'ils réalisent qu'il n'y en a pas de fondement. Donc, vous allez trouver des athées comme Yannick Villedieu qui ne réalisent pas, je crois, qu'on est en train de détruire quelque chose qui a été construit sur une vision judéo-chrétienne du monde. La réalité, c'est que la social-démocratie qui dit on veut partager ensemble, son fondement est judéo-chrétien. C'est ça la réalité. D'accord? Avec le judéo-christianisme, puis là, vous pouvez penser à l'islam, mais l'islam, c'est un, excusez-moi de le dire comme ça, c'est un sous-produit du judéo-christianisme, d'accord? Je veux dire, même eux n'auraient pas le choix de l'admettre, là. Ils vont dire que c'est la troisième révélation, mais il reste que Mahomet s'est inspiré du judaïsme et du christianisme pour construire sa religion. Donc, toute la social-démocratie, la notion de partage, de société, toutes ces choses-là sont pas conséquentes si j'ai juste une vision matérialiste de l'univers. Son fondement est judéo-chrétien. Et lorsqu'on va finir d'enlever tout ça, la suite, c'est vraiment une vision apocalyptique où l'être humain, il y avait un film là, qui était sur Netflix l'autre semaine, où il y en a plusieurs qui sont sortis dans les dernières années, où comme on apprend que l'univers la Terre va être entièrement détruite par une météorite gigantesque dans 24 heures. Fait que là, c'est le chaos total qui s'installe sur la Terre. Et si on continue à effriter le fondement judéo-chrétien, l'idée qu'il y a un Dieu absolu pour définir le bien et le mal, si on continue d'effriter ça, l'être humain n'aura pas besoin d'une météorite dans 24 heures pour vivre comme ça. La suite logique, c'est d'en venir à vivre dans cette espèce de chaos-là, bien avant la météorite de 24 heures. D'accord?